Hommage à Rome Total War.
Au 4e siècle après Jésus-Christ, Rome vit ses dernières heures. Jadis, une puissance qui imposait ses lois, aujourd'hui elle n'est plus qu'une ombre d'elle-même. Ses cités tombent les unes après les autres sous les vagues barbares. Les plus terribles d'entre eux, les Huns, s'apprêtent à faire le siège de la ville éternelle, Rome. Le pape Léon III s'avance pour négocier avec le chef des barbares, Attila.
Attila, je viens négocier la reddition.
Sage décision, Léon.
Les deux adversaires sont des diplomates aguerris et le front commun est solide. Les négociations s'annoncent rudes.
Je te donne 10 000 pièces d'or.
20 000.
10 000.
20 000.
10 000.
20 000.
10 000?
C'est dans cet échange épique que se scellera le sort de Rome.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à Puissance maximale, votre émission d'actualité ludique. En votre compagnie, François Gécouillard et toute l'équipe. Bonjour.
Salut. Oui,
bonjour tout le monde. On va faire un petit tour de table sur qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Raymond Poirier, le docteur Raymond Poirier, qui vient nous parler, comme d'habitude, des grands phénomènes du web.
Et cette fois-ci, on va s'intéresser à pourquoi on met des trucs sur le web.
Pourquoi?
Pourquoi? La grande question. Là.
Question existentielle. Francis?
Moi, aujourd'hui, je vous parle dans ma chronique Oldie contre Newbie. Je vous parle de Bubsy in Claws Encounter of the Third Kind sur Super Nintendo. Et je vous parle aussi des Ninja Turtles Reshelled sur la PlayStation et Xbox.
Et le moment nostalgie aussi.
Oui, exactement, bien sûr, le moment en heure de la semaine que je vais vous donner en détail plus tout à l'heure au niveau d'un site au sujet de Smash Brawl.
All right. Et Christian?
Oui, ben moi, je vais vous parler du jeu en français. Donc, quel est le prix à payer, etc. Les avantages et inconvénients. Et on va parler aussi de iPod Touch, les meilleures applications pour le jeu.
Et on a Guillaume Forand aussi.
Et oui, je vais parler un petit peu de RPG, de role-playing game, de jeu de rôle avec Dragon Age, le jeu de rôle RPG sur table.
Et un peu plus tard, on va avoir Émile Gauthier de Ubisoft qui va venir nous parler des maquettes qui viennent de sortir pour le jeu Prince of Persia de Forgotten Sand. Sinon, on commence immédiatement avec la chronique à Raymond Poirier.
Les grands phénomènes du web. Expliqués par Dr. Raymond Poirier.
Et oui, mais en fait, cette semaine, on s'intéresse à une grande question. En fait, il faut dire que depuis que j'ai le plaisir de venir faire un tour ici à Puissance Maximale, ben, je vous parle de vidéos. Et je furetais cette semaine, comme dans les dernières semaines et comme dans les derniers mois, voire les dernières années, dans l'univers des vidéos. Je me suis dit, pourquoi on met autant de vidéos sur YouTube ou YouTube en version française. qu'est-ce qui nous pousse à faire ce geste? Et je suis tombé sur quatre clips qui peuvent m'amener à soit une interprétation ou soit l'autre. Une étant, est-ce par narcissisme, par désir de s'auto-diffuser? Ou l'autre étant, est-ce plutôt par envie de participer à des mouvements globaux, à des mouvements collectifs d'envergure? Alors, je vous donne mes quatre exemples, et à la limite, j'ai plus envie de lancer la question à vous, chers élèves, que d'y répondre de manière ferme, nette et précise aujourd'hui. Alors, premier exemple, on parle du défi de la cannelle, Cinnamon Challenge en version française. Ça date de 2006. C'est absolument fabuleux comme principe, inspiré directement des Jackass et autres. L'idée est d'ingérer une cuillère à table de cannelle en poudre. Alors, semble-t-il que notre corps est incapable de faire ça parce qu'on aspire toujours un peu de poudre. C'est très épicé, donc nécessairement, les gens vont la déglutir par après. Donc, ça fait...
De la vomir, ou de la tousser,
tout dépendant. Et il y a des milliers de vidéos de ce défi-là sur Internet. Alors, quelqu'un qui l'a lancé au départ... notamment dans une émission de télévisée qui s'appelait Toche. Les gens, la plupart du temps, ratent, mais tout le monde a envie d'essayer, de tenter leur chance pour devenir ceux qui vont réussir.
Parfois, le but, c'est de l'avaler sans vomir, sans le déglutir.
Exactement. Et c'est, vous l'essayerez à la maison, en fait. C'est pas sans risque, ça dit. Je le conseille pas, officiellement.
Toi, t'as-tu essayé?
Non, en fait. Je tiens à ma santé. Mais vous êtes nombreux à l'avoir essayé. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, un clip qui s'appelle « 51 Things in My Room ». 51 choses dans ma chambre. Ça, c'est un phénomène qui est extrêmement populaire. Je veux dire, vous arrivez à l'université, vous êtes dans votre première chambre et nécessairement, il y a comme une part de vous, une espèce d'instinct, là, comme on a été chasseur-cueilleur et le reste, mais il y a un instinct qui dit « Hey, je veux faire une vidéo, le mettre sur YouTube où je vais diffuser 51 choses qui sont dans ma chambre. » Alors, essentiellement, c'est une fille, Hurricane Aubrey, qui en 2008 a décidé de faire un clip où elle présente sur fond musical 51 choses qu'elle a dans sa chambre. « Ah, j'ai des godasses. Ah, j'ai un iPod. Ah, j'ai un ordinateur. » Des choses comme ça, des objets plus cocasses, d'autres moins cocasses. Et jusqu'à maintenant, on parle d'à peu près quoi? 7000 réponses vidéo sur le web et plusieurs centaines de milliers de visionnements pour ces clips-là. Donc, c'est très populaire.
Donc, c'est une jeune fille comme ça qui a l'air très contente de montrer ses trucs.
Effectivement. Ben, la vidéo est cute. Honnêtement, ouais. Ça, j'ai trouvé ça joli. C'est peut-être un peu moins cave que Cinnamon Challenge sur le niveau rationnel. Tout aussi inutile, mais bon, on peut comprendre peut-être un peu plus facilement le phénomène. Peut-être troisième exemple, crying while eating, donc pleurer en mangeant. Et ça c'est un concours, en fait. Initialement, c'était créé pour être un clip viral, pour être un phénomène viral. Et c'est la preuve que des fois, on perd le contrôle des phénomènes viraux eux-mêmes et ça devient une culture en soi. Alors l'idée était de créer un projet où les gens se filmeraient et pleuraient en mangeant. L'idée est si vous êtes attiré par l'idée de faire un clip de ce genre-là, alors l'idée c'est de mettre au départ votre nom. Par exemple, je m'appelle Raymond, je vais manger des toasts et je vais pleurer en mangeant des toasts parce que je suis triste de me lever ce matin.
Mais pourquoi?
Et ensuite, je m'enregistre en pleurant.
C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Alors, c'est quand même, on peut se poser la question, pourquoi?
Mais là, tu dis, Raymond, c'est un concours, ça veut dire que c'est quoi le concours? Comment on peut faire pour gagner?
Ah non, il n'y a pas de gagnant.
OK.
Il n'y a pas de gagnant, tu diffuses et c'est ta victoire.
OK, donc c'est ta victoire.
Exactement. L'idée, c'est peut-être d'être le clip qui a été le plus vu. Et il y en a effectivement qui ont plusieurs centaines de milliers, encore une fois, de visionnement. Donc, des gens qui sont absolument fascinés par le fait que d'autres pleurent en mangeant.
Celui du pretzel, c'est 13 000
oui.
vues.
C'est quand même pas si mal pour un gars qui pleure en mangeant un pretzel. Je veux dire, bon, il y a les clips de chats qui sont très populaires sur YouTube, mais on y reviendra un autre jour. Dernier exemple qui pousse peut-être un peu la notion de narcissisme et ou d'art, c'est toute cette série d'idées là, de une photo par jour. Celui qui l'a lancé, qui est peut-être un peu plus populaire, c'est Noah Kalina, qui est un photographe basé à New York, je crois, qui pendant un an, 365 jours, pendant six ans, 2356 jours, s'est filmé à chaque jour. Dans le fond, une image de lui. Il a fait un montage avec toutes les photos une après l'autre. Ça dure à peu près 7 minutes. Honnêtement, c'est joli. Ça a été même parodié dans un épisode des Simpsons qui s'appelle Eternal Moonshine of the Simpson Mind, si vous voulez le retracer. Et c'est un concept qui a été copié, qui a été innové également. Donc, l'idée de gens qui prennent une photo pendant d'eux-mêmes, pendant un mois, pendant 6 ans, pendant 10 ans, et qui le diffusent sur le web. Alors, quatre exemples quand même assez distincts. Je veux dire, avec Photo ED, par exemple, on peut se demander pourquoi quelqu'un va faire ça. Bon, c'est une bonne idée au départ, mais ça a déjà été fait. Donc, qu'est-ce qui va pousser les gens à dire, ben moi, je vais le faire aussi? Est-ce que c'est par diffusion, par désir de créer quelque chose, le diffuser? Est-ce que c'est par désir de montrer sa face à chaque jour pendant un an et de dire, ben je l'ai fait, c'est d'aller voir à chaque jour, hey, il y a 12 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 13 000 personnes qui l'ont visionné? Ou est-ce que c'est pour dire, je l'ai fait aussi?
Clairement, il y a du narcissisme là-dedans.
Il y a du narcissisme là-dedans. C'est un peu la même chose avec la bouffe en train de manger. Je veux dire, les quatre éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, le challenge, la cannelle, les choses dans la pièce, en soi, c'est parfaitement inutile. Il n'y a rien de drôle particulièrement à ces clips-là. Il y a 7000 réponses vidéo, je veux dire, à ce défi 51 choses dans ma pièce. À un moment donné, on a fait le tour. Mais les gens continuent à en mettre. Absolument. Et à chaque année, il y en a plus. Je veux dire, des fois, ça va jusqu'à 1000 de plus par année. Et ça va continuer. Et ça n'arrête pas. Et contrairement à certains phénomènes qui ont une durée de vie qui est très précise et qui diminue, et que ça, on peut dire ça a duré 3 jours, ça a duré 6 mois, ça a duré un an, je veux dire, ça dure depuis déjà 3 ans. Le challenge la cannelle, il y a encore des nouveaux clips qui se mettent 5 ans après pratiquement. Crying While Eating, même chose, 5 ans plus tard. Photo ED, il y en a encore qui le font après 4 ans. Donc, il n'y a plus de possibilité d'innover.
Je vais te faire une confidence, Raymond. Là, j'ai vu celui du Prezel, puis j'ai le goût de le faire, celle-là aussi. Je ne sais pas pourquoi. Donc,
est-ce que c'est par désir d'émulation? Est-ce que c'est par narcissisme? Est-ce que c'est pour embarquer dans le phénomène parce que ça dure depuis longtemps? J'ai pas la réponse aujourd'hui. J'ai envie de vous la lancer.
Ah oui, hein? Pourquoi?
Tout simplement.
Pourquoi donc?
Pourquoi? C'est comme tout le monde. Maintenant, le web, ça nous permet de nous afficher, de dire « je suis là ». Donc, c'est la façon pour les gens de dire « j'existe, je l'ai fait moi aussi ». Je suis peut-être le troupeau un peu, mais c'est la façon que le monde se démarque tout en étant dans un groupe, dans un phénomène social. C'est leur façon de se démarquer, mais ils ne se démarquent pas vraiment parce qu'ils ne sont pas les seuls. Donc, ça se contredit quand même.
Et je vous laisserai, pour faire du pouce là-dessus, sur une citation en terminant de Andrew King, tirée de son livre « Le culte de l'amateur, comment Internet tue notre culture ». Il dit... Aujourd'hui, nous sommes tellement occupés à nous auto-diffuser sur des réseaux sociaux que nous ne nous intéressons plus aux œuvres de création des musiciens, des romanciers et des cinéastes professionnels.
Ouh là là!
Nous intéressons-nous trop à nous-mêmes?
C'est une conclusion lapidaire, mon cher.
Voilà.
Docteur Raymond Poirier qui venait nous parler d'un grand phénomène du web. Tous les vidéoclips dont, évidemment, Raymond nous a parlé vont être disponibles sur le site internet puissancemaximale.com. Je te remercie beaucoup, Raymond.
Ça me fait plaisir.
Donc, au mois prochain, et pour plus d'instructions, plus de culture de sous-sol, qu'on pourrait dire. On va l'écouter maintenant une pièce et on revient tout de suite après. Vous êtes à Puissance Maximale. Ça va être Capitaine No et Ballonné. On parlait de choses douteuses, le ballonné, c'en est un.
Ma sandwich, payé cash au restaurant. Hey, bonhomme, prends-toi d'une patate en sortant. Quand un homme se présente à moi et me demande si j'ai droit, quand un homme se présente à moi et me demande si j'ai droit, quand la vie n'a plus de sens. Et que tout se ressemble, ça sent, mes bonhommes.
Quoi?
T'as tout eu, t'as tout bu, t'as tout su, t'as tout fait, mais t'as assez toi. T'as tout eu, t'as tout bu, t'as tout su, t'as tout fait, mais t'as assez toi. T'as assez sûr de nous autres. On va gagner, libérer, vivre, vivre en harmonie. Avec toi pis moi, on est tous des poignées. Quand la vie n'a plus de sens et que tout se ressemble, ça ressemble dans ma sandwich au... Quand j'embarque sur ma sandwich, quand j'embarque sur ma sandwich,
payé cash au restaurant, dans ma loge à nuit, au bar, le wow on est. Ouais, mais vendredi soir, j'ai mangé deux sandwichs au ballonné moutarde avec une patate frite pour le souper. Après ça, je me suis allé boire à la taverne. Oh, j'ai bu une caisse pour me mettre. J'avais une gang de gars dans le coin, ça commençait à être plate. Ben, j'ai dit au gars, on monte au club t'en plus, on monte dans un genre de char de freak, comme t'as bien high là-dedans. Je suis là au bout. On arrive là-bas au club, commence à prendre une coupe d'autres biens, regarder le chou un peu, quelque chose. Bien coup, m'a pas que. Hier, j'ai dit, je file pas bien bien. Ben, on va faire un tour aux toilettes. Et d'un coup, en dessous d'en bas, je me suis aperçu que je n'avais pas de gérer ma sandwich au. Quand je suis au bout, assis, on est obligé de m'arrêter. Enfermer, ouais, dans ma sandwich au bar. Non, on est.
Hi, I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Sans Maximal.
Et nous sommes de retour à Puissance Maximale avec Francis Rodrigue. Bonjour Francis.
Bonjour tout le monde.
Donc tu viens de parler de vieillerie, de nouveautés.
Bien entendu, donc aujourd'hui j'ai évolué de 8 bits côté console classique, donc j'ai passé de la Nintendo à la Super Nintendo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu très traditionnel, Bubsy, un platformer comme on les aime. Je vous raconte rapidement l'histoire. Dans le fond, une sorte étrange d'aliens ont envahi la Terre pour y voler les réserves de pelotes de laine et particulièrement celle de Bubsy, le personnage principal du jeu, qui est un Bobcat, une espèce de lynx, si on peut dire.
C'est quoi, c'est une peluche?
Non, c'est un. C'est comme Sonic est un hérisson, ben lui, c'est un Bobcat. Okay, okay. C'est une espèce de félin qui court avec un gilet avec un point d'exclamation dessus, là, qui est une grosse marque dans le jeu, aussi étrange soit-il. En gros, c'est ça. Donc lui, en fait, ce qu'il veut, c'est simplement anéantir les aliens pour retrouver sa grosse collection de pelotes de laine. En fait, les habiletés du félin. Au début, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont voulu concurrencer ça. Au début, ils ont appelé ça le Sonic Killer. Ils voulaient tuer Sonic en sortant Bubsy.
Ouh là là.
Chose qu'ils ont malheureusement planté absolument incroyablement.
On aime ça, les choses qui plantent, de toute façon.
Ça arrive très souvent. C'est ça, ben, c'est qu'ils ont sorti. Les habiletés du félin, en fait, là, c'est qu'ils courent très rapidement, comme Sonic, bien sûr. L'affaire là-dedans, c'est tout est dangereux parce qu'on crève tout le temps d'un coup. Il y a deux affaires qui ne tuent pas dans un coup dans le jeu. C'est assez dangereux, justement, à cause de ça. Parce qu'on va tellement vite que s'il y a un ennemi, on le voit que dalle, puis breaker, quand on essaie de freiner, il y a un dérapement monstrueux, puis c'est sûr qu'on touche. Là.
Quand il y a un trou qui arrive, là, tu n'as même pas le temps de freiner, tu tombes
dedans. Ah non, on rentre carré dedans. Puis généralement, les trous, c'est pas des petits trous larges comme le bonhomme. C'est généralement un 30 pieds de trou. Il faut que tu fasses un autre chemin pour y aller, tu sais. Et puis c'est ça, une autre affaire aussi importante avec le personnage, il saute très très haut, un peu aussi une fois comme Sonic. Mais par exemple, un petit dépassement à côté du hérisson bleu qu'on aime tant, c'est qu'il peut planer. L'affaire, c'est que plus qu'on va vite, plus qu'on saute, quand on va planer, il va aller très vite pareil.
Parce que tout le monde sait que des chats, ça vole. Hein?
Ah, définitivement. C'est autant qu'un écureuil, finalement.
Ben, je sais pas pourquoi, mais dans Mario, quand il se transforme en raton laveur, il vole.
C'est rien que ses oreilles puis sa queue derrière, bien sûr, qui peut le faire voler. C'est assez spécial. Pour en revenir au jeu, bien sûr, le jeu a été fait en mai 1993 par Michael Berlin et ça a été sorti par la compagnie Accolade, qui est une compagnie que je ne crois plus qui n'existe maintenant. C'est ça, donc. Et puis, la voix du personnage, parce que le jeu parle pendant le jeu. Du moins, au Super Nintendo, on le comprend. Au Genesis, c'est monstrueux parce que le voice processing là-dedans était très gris. Et j'en ai pas de mots. J'en ai simplement pas de mots. Expériencez-le pour le voir. Et c'est ça, à partir des autres, c'était John Eskill, c'est le premier qui l'a fait. J'ai pas le nom, malheureusement, de l'autre personne qui l'a fait. C'est ça, ils ont fait plusieurs autres jeux par la suite qui étaient très ordinaires, soit dit en passant. Là. ensuite, le deuxième jeu que je vais vous parler aujourd'hui, tout le monde va se rappeler de l'excellent classique vu sur arcade, Sega Genesis et surtout Super Nintendo. Je vous parle bien sûr des Teenage Mutant Ninja Turtle in Time, un jeu excellent, soit dit en passant.
Ils ont pas fait sur le Super NES, celui-là? Oui. Sur Nintendo aussi?
Non, c'est au Super Nintendo, ils en ont fait 3. Mais après ça, ils ont sorti le 4, qui était justement Turtle in Time, qui ont fait arcade Super Ninja Genesis. Et puis, Ubisoft ont ressorti le jeu, au début de l'année. Pas au début de l'année, en fait, c'est plus en fin de l'année dernière, plutôt. Par contre, malheureusement, j'ai été grandement déçu. Mon nombre de classiques en ont mangé une sacrée volée. Je vous explique rapidement, c'est que pour les fanatiques de jeux classiques comme moi, qui sont très attachés aux moindres petits détails d'un ancien jeu, va être entièrement anéanti. C'est sûr qu'ils ont fait une amélioration graphique assez intéressante. On voit que c'est maintenant au goût du jour. Seule chose, c'est que la musique est pas aussi entraînante. Au Super Nintendo, la musique était très prenante. Ça nous encourageait justement à botter le derrière des faux clans. Mais maintenant, la musique est comme un petit peu plus jazzy. C'est moins entraînant un peu.
Ouais, d'habitude, le jazz, t'écoutes pas ça pour te battre.
Non, t'écoutes ça pour claquer des doigts généralement.
Ouais, c'est ça.
Puis pour ce qui est des graphiques, je les trouvais beaucoup plus sombres. C'est sûr qu'il y a des tableaux qui sont colorés, mais si je compare ça à la version Super Nintendo, qu'on aurait dit une crise d'épilepsie en couleur, là, c'était génial. Là. C'est justement, ils ont manqué une petite touch de couleur sur le jeu. C'est ça qui était plate. Bien sûr, la meilleure version qu'ils ont faite dans le temps était au Super Nintendo. Arcade était aussi très très bien, c'est juste que disons qu'il retenait plus sur le Genesis, puis c'était le fun. Par exemple, on pouvait jouer à 4. On peut par exemple, avec justement cette version là, on peut jouer encore une fois à 4. Le jeu se retrouve sur PlayStation Network et Xbox Live Arcade, donc c'est pas des gros jeux sur CD, non. C'est des petits jeux qu'on peut télécharger sur le net. Le jeu coûte environ 10$ sur PlayStation. Malheureusement, je n'ai pas son nombre de points sur Xbox Live Arcade, non. Mais disons que pour 10$, c'est un bon petit divertissement de groupe avec une petite bière, là, botter derrière de quelques ennemis, là, c'est toujours le fun, un beat'em up, là.
Ouais.
Et puis, donc c'est pas mal tout pour les Ninja Turtles.
Un bon petit jeu à jouer, mais ni plus ni moins. C'est pas, ça marquera pas l'histoire. Là.
Non, définitivement. Ben, du moins, si encore une fois je reviens dans mon classique, ça m'a pas marqué autant que la version Super Nintendo qui a marqué ma jeunesse à tout jamais. Là. Et puis maintenant, pour terminer avec mon moment en heure de la semaine, je veux vous parler d'un site There Will Be Brawl. Dans le fond, c'est une série noire. Dans le fond, eux autres, ils l'appellent une parodie sombre, dramatique, basée sur Super Smash Brawl sur la console Wii. C'est vraiment basé sur cela de la Wii, parce qu'il y a des personnages qu'on voit dans cette version-là, qu'on voit pas dans les autres. Et puis, dans le fond, vaguement l'histoire, le Mushroom Kingdom s'est ramassé en espèce de bronque. C'est super lugubre. Luigi vend de la drogue, Mario Bros s'est fait renvoyer de son emploi de Dr Mario finalement à cause d'une opération qui a mal tourné. Puis au travers de ça, gang de rue, combat, c'est très sombre. C'est sûr que vous regarderez pas ça pour rire.
C'est un dessin animé ou c'est une vidéo?
C'est du monde qui l'ont fait, en fait, justement. C'est Matthew Mercer, qui est le directeur et co-créateur de la série. Puis il y a Zach Grafton, qui est l'écrivain, le co-créateur et le producteur de la série. C'est un petit 10 volets qu'on peut retrouver sur leur site, therewillbebrawl.com. Et puis que je vais mettre aussi sur notre site internet. Et c'est ça, dans le fond, c'est attendez-vous pas à éclater de rire, comme je disais. Là. C'est une belle petite série qui... On peut voir l'amateur là-dedans, mais on peut voir à quel point ils ont travaillé fort.
Wow, ça a l'air vraiment intéressant. On mettra le lien sur internet.
Définitivement. Moi, je vous invite fortement à aller la regarder. Donc, aujourd'hui, je vous parlais de Bob C. 1 sur le Super Nintendo. Je ne vous renommerai pas le nom, il était absolument trop long. Soit dit en passant, je crois que vous pouvez le retrouver sur la WiiWare. Je n'ai pas la certification, mais je vous le vérifierai pour la semaine prochaine. Et puis, je vous parlais aussi des Ninja Turtles Re-Shell Turtle in Time sur PlayStation 3 et Xbox Live.
Parfait. Merci beaucoup, Francis Rodrigue. Et là, dis-moi, on va mettre une pièce de Mad Hatter. C'est quoi exactement cette pièce-là? Peux-tu nous la présenter?
Oui, la version de Mad Hatter, en fait, il s'agit de Operation Entry 13. Donc, ceux-là qui ont déjà joué, bien entendu, à Metal Gear Solid, Metal Gear tout court, excusez-moi, sur Nintendo dans le temps, c'était le nom que portait l'opération. Et c'est justement le groupe rap que je vous avais présenté là, maintenant 2 semaines nous offre un autre remix basé sur les jeux vidéo et on s'en va avec ça.
Vous êtes à puissance maximale.
You wanna know about Operation N313? Well, sit down. This might take a while to explain. Yo, parachuted from the plane and my boots touched down. On the ground in the jungle without making a sound. Checking with Big Boss on the transceiver radio. There we go, now it's time to stop the show.
I feel asleep.
Said the guard on the path. So I snuck up and I punch him in his sleepy ass. I run from the dogs, holy cow. They must be putting crack in that puppy chow. Yeah, take out more guards, steal their key cards. Making them moan like a bunch of retards. Into building one, I finally find a gun. A gas mask, some missiles and a cardboard box for fun. Silencer, grenade launcher, yeah. Just a normal day for your average saboteur. I thought nothing could ruin my rapture. But this about the time that my ass got captured. They put me in a cell next to Gray Fox. I helped him escape and got out of that box. I grabbed my backpack full of gear. I was met by a guard with a shotgun severe. I told him to give up, but he would not succumb. So I shot RC missiles right up his rectum. The same goes for them fools who shot. My grenades made them suckers feel not so hot. Machine gun kid trying to take me down. But I took out my Beretta and I popped that clown. Down the elevator and I'm on my way. Out of heaven's blood will spray because I'm a one-man weapon. No mass destruction, yeah. Special forces agent don't need an introduction. Fox sound specialist, and you know I'm pissed. You take a look at miss, I might give your neck a twist. Operation N313. I can choose to sneak or cause a killing spree. But let me make one thing crystal clear. Solid Snake doesn't fear a Metal Gear. This is where shit really starts to stir. I was stopped by a muscle-bound super soldier. You are not Arnold Schwarzenegger, no you are not, sir. Oh yeah, it's a part with my rocket launcher. Next up, fire trooper and coward duck. Dillagaff, does it look like I give a fuck? Nothing will stop me from completing my mission. Steady leaving guards in critical condition. I finally find Dr. Petrovich, who shows me how to give Metal Gear a computer glitch. But then he gave me some shocking information. Boss is the leader of the Out of Heaven Nation. What the hell? No way. My own commander is the one to betray. I plan explosive on the supercomputer. Only one dirty dog left that I gotta neuter. I found Big Boss and I crushed his goals. I also crushed his skull with a dose of missiles. I blew that place up and I ran from the heat. Another mission complete because I'm a one-man weapon of mass destruction. Special forces agent don't need an introduction. Fox sound specialist, and you know I'm pissed. You take a look at miss, I might give your neck a twist. Operation N313. I can choose to sneak or cause a killing spree. Yes. But let me make one thing crystal clear. Solid Snake doesn't fear a Metal Gear. I'm a one-man weapon of mass destruction. The special forces agent don't need an introduction. Fox sound specialist, and you know I'm pissed. You take a look at miss, I might give your neck a twist. Operation N313. I can choose to sneak or cause a killing spree. But let me make one thing crystal clear. Solid Snake doesn't fear no Metal Gear. There ain't too much I do fear. There isn't a nuclear holocaust that I can't handle. Foxhound, Solid Snake, Lame Foster Replay, bitch.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Et vous êtes de retour à Puissance Maximale. Et maintenant, après 2 ans de dur labeur, l'équipe d'Ubisoft Québec vient de sortir des maquettes pour un nouvel opus de Prince of Persia, The Forgotten Sand. Et le jeu fait saliver les amateurs et on reçoit un habitué de l'émission, Émile Gauthier, responsable des communications chez Ubisoft. Bonjour Émile.
Hey, bonsoir messieurs, ça va bien?
Ça va super bien.
Ben oui, toujours un plaisir de venir vous voir à Puissance Maximale.
Un habitué, on commence à être pas mal amis.
Exact, exact. Donc, on commence à pogner la twist.
Dis-moi, c'est quoi exactement le scénario là, de Forgotten Sands?
Ben en fait, avec The Forgotten Sands, on a vraiment voulu revenir à l'essence de Sands of Time. Je sais pas si c'est un jeu que vous avez joué et apprécié, mais en gros, les fans de la franchise, c'est vraiment le jeu qui les a amenés ailleurs, si on veut. Donc avec The Forgotten Sands, on revient vraiment à la base, à l'époque de Sands of Time. Vous savez, l'univers de Prince of Persia, c'est un univers qui permet de raconter différentes histoires dans différents lieux et tout ça. Donc, l'histoire actuelle de Forgotten Sands, dans le fond, se situe entre Sands of Time puis Warrior Within, qui avait sorti tout de suite après. Donc, c'est dans un espace de 7 ans après Sands of Time que l'histoire se situe plus précisément.
Là, détrompe-moi si je m'abuse, là, Émile, mais si je me souviens bien, le Sands of Time, c'est le premier jeu dans lequel on pouvait reculer dans le temps, non?
Exactement, exactement.
C'est ça qui a fait la marque de commerce, en quelque sorte, du Prince of Persia, Sands of Time.
Ouais, le pouvoir de jouer avec le temps et tout ça, là. Exact. Là. Donc, dans cet opus-là, en fait, le prince va rencontrer une Jan, qui est une djinn au féminin, qui va l'amener justement dans un monde ténébreux qui ne demande
Jane,
qu'à
en
être...
Fait.
Jane, ouais. C'est, disons Jan, D-J-A-N-N. Mm-hmm. Donc, cette dame va nous amener dans un espèce de monde qui est infecté par le mal et on va devoir libérer ce royaume-là du mal qui sévit.
Donc, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monstres et beaucoup de bastons, d'actions, tout
il
ça.
Il risque d'avoir tout ça, effectivement. Oui.
C'est le bureau de Québec qui a développé la version Wii, alors que le studio Montréal a développé sur PS3, Xbox 360, Nintendo DS, PSP. Pourquoi est-ce que à Québec, c'est la Wii spécifiquement?
Ben, la PSP a été aussi développée à Québec. En fait, nous, au départ, on a reçu le mandat de développer un jeu de Prince of Persia, justement, qui revenait un peu à l'essence de Sands of Time pour la Wii, donc exclusivement pour la Wii. Donc, nous, on est parti avec cette idée-là, puis on a fait du chemin avec ça. Donc, on a vraiment développé notre jeu propre à nous, si on veut. C'était voulu, donc, de prendre une certaine distance avec les autres versions, parce que souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est pas nécessairement souvent ce qu'on voit, mais ce qu'on voulait, c'est vraiment amener une expérience unique à la Wii, donc, et non prendre une version 360 ou PS3, puis de tenter de l'adapter là-dessus. Donc, on est vraiment parti indépendamment, puis par la suite, bien évidemment, qu'on a jasé avec nos collègues à Montréal et ailleurs pour développer ces deux titres-là. Donc, la PSP, même chose. On est parti avec la console, puis on s'est dit, on veut pas transposer une expérience de salon sur le mobile. On veut vraiment quand on joue à la PSP, on est dans un contexte spécial, donc on veut bâtir autour de ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on a fait avec ça. Donc, pour la Wii, bien évidemment, ça utilise les contrôles de la Wii. Je dirais pas d'une manière excessive, mais quand même, ça permet de l'utilisation assez intuitive du jeu. On embarque assez rapidement.
Ça, je vois qu'on s'inspire un peu quasiment de Spider-Man. Par exemple, on a un item là, qui nous permet de s'accrocher au mur, l'anneau du prince. Donc, c'est j'imagine que c'est avec ça qu'on peut utiliser les outils de la Wii, là.
Oui, ben effectivement, ben là-dessus justement on a trois pouvoirs que le prince ça c'est un des ajouts importants de ce titre-là par rapport aux autres. Trois pouvoirs que le prince va devoir acquérir puis parfaire avec le temps. Donc justement, on a les espèces d'anneaux qui nous permettent de s'accrocher à certains endroits sur le mur. On a des espèces de bulles qui permettent de rester en suspension dans l'espace, si on veut. Puis d'autres, on a des piliers de sable aussi qui permettent de monter dans les airs et tout ça.
Donc, de léviter un peu.
Exact, de léviter. Ces pouvoirs-là, on les acquiert là, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, si on veut.
J'ai vu que les scénarios étaient différents d'une version à l'autre. C'est en quoi justement c'est différent les versions Wii par rapport aux autres?
Ah, là-dessus, ben vous allez avoir la surprise éventuellement. Okay. Donc là, la semaine dernière, on dévoilait des éléments de la version Wii, puis par la suite là, on va peu à peu, vous allez voir plus de détails autour des autres versions.
C'est encore secret. Là.
C'est encore secret. Mais l'objectif, c'est justement d'avoir une expérience différente pour chaque plateforme. Donc on peut avoir le jeu sur la Wii. Puis il a juste sur la PS3, puis on va vivre carrément une expérience différente.
Ça veut dire que si on le prend sur la Wii et sur le PlayStation 3, qu'on va avoir deux expériences complètement différentes?
Oui, ça va être deux expériences différentes. Au niveau des scénarios, c'est évident que ça va se rejoindre à quelques endroits. Toutefois, on voulait pas justement que le jeu soit un calque de l'autre. Donc celui de la Wii a vraiment été fait là, pour la console avec un gameplay qui qui fait suite à toute cette cohérence là, si on veut là. Puis vous serez, vous allez voir, je sais pas si vous avez vu circuler les images un petit peu puis tout ça là, mais c'est c'est extraordinaire là. Ouais. C'est un jeu qui roule à 60 frames par seconde. C'est des choses que des fois on voit même pas sur PS3 puis sur 360. Puis
ben oui, hein, comment vous avez fait ça?
Ça c'est vraiment en fait au niveau technique, vous gagneriez à discuter peut-être avec un programmeur ou quelqu'un de plus à fond dans l'engin. Mais justement, c'est tout est parti de notre démarche de base qui était de faire de vraiment faire un jeu sur la Wii qui fonctionnait puis qui amènerait quelque chose qui a vraiment un effet wow là. Donc on a mis le temps, on a quand même pris deux ans et demi pour faire ce jeu là donc c'est quand même assez long, plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus, donc vraiment on a mis le temps, l'énergie et tout pour rendre ça là. Donc
ben puis, oui, deux ans là-dessus, l'équipe d'Ubisoft travaille là-dessus très très fort. L'effet wow, est-ce que vous êtes inspiré de Clatter Rapper? Non.
C'est Clatter Rapper, il a fait sa visite à Québec, le jeu était déjà énormément avancé, donc les effets wow étaient déjà là.
Mais Émile Gauthier, là, vous travaillez beaucoup au bureau de Ubisoft Québec. C'est quoi les autres jeux que vous travaillez là? C'est quoi ce que vous avez dans vos boîtes?
Ben, ce qu'on a dans nos boîtes, effectivement, ben justement, The Forgotten Sands, Prince of Persia va sortir en mai, le 18 mai. Même chose pour le jeu sur PSP. Donc ça, c'est les projets sur lesquels on travaille actuellement. Ça fait, François, je venais ici il y a peut-être un an ou deux ans, puis on travaille sur quelque chose de secret. Tout ça. Bon, c'est exactement ça. C'est le projet qu'on vous cachait depuis tout ce temps-là. Pour les autres projets actuellement, on a plusieurs projets actifs en ce moment, des projets super intéressants, mais malheureusement, pour l'instant, non, c'est ça. Sûr que ça va être au courant de tous les développements qui vont venir autour de ça.
Parfait. Donc, c'est tout le temps qu'on a, Émile Gauthier. Bon, donc, on vous félicite, l'équipe de Québec, Ubisoft, pour
merci beaucoup.
Forgotten Sand, donc Prince of Persia, le nouvel opus. Et puis, donc, ça va sortir en mai. Donc,
exact.
Quand vous verrez ça dans votre magasin, ben, pensez que c'est des gens de Québec qui ont travaillé là-dessus.
Ben
la version Wii, au moins.
Vous pouvez être fier. Ben oui, ça a fait le tour du monde la semaine dernière. USA Today, Nintendo Power nous ont consacré huit pages avec des entrevues des gens de Québec, tout ça. Donc,
bravo.
On peut vraiment être fier des créateurs de la région.
Donc, on vous suit, Ubisoft Québec.
Sinon, merci.
On va écouter une pièce. Donc, une pièce tirée du dernier album des Ogres de Barbac. Ça va être le contraire de tout. Vous êtes à puissance maximale. Merci encore, Émile.
Ben, merci à vous, les amis.
La nuit, c'est le jour sans lumière.
L'hiver, c'est l'été, loin du soleil.
La haine, c'est l'amour en colère.
Le beau, c'est le lait qui s'émerveille.
Le grand, c'est le petit qui s'élève.
Le gros, le maigre qui s'épaissit.
Le lent, c'est le rapide qui rêve.
Le doute, c'est le cercle qui s'enfuit.
Tout est tout et son contraire, tout est le contraire de tout. Quand le tout traite de con, le traite de con tout en tout. Tout est tout et son contraire, tout est le contraire de tout. Quand le tout traite de con, le con du contraire est traité. Hop hop.
Le malheur, c'est la chance abandonnée.
Le plein, c'est du vide rempli.
Le mal, c'est le bien détourné.
Le groupe, c'est le seul réuni.
Le trou, c'est le tard en avance. Le speed, c'est le calme énervé.
Le rythme, c'est le hasard en cadence.
La mort, c'est la vie inanimée.
Tout est tout et son contraire. Tout est le contraire de tout. Quand le tout traite de con, le traite de con tout en tout. Tout à coup, c'est le contraire, on se contente du tout. Quand le tout traite de con, le con du contraire est traité.
Le près, c'est le loin qui s'en rapproche.
La peur, c'est le sûr de soi surpris.
La crainte, c'est les vents devenus moches.
L'enfer, c'est tout près du paradis.
Le connu, c'est l'absent découvert.
La vieillesse, quand la jeunesse est âgée.
La pollution, quand les colons se mettent au vert.
L'ancien, quand le nouveau est usé.
Le dur, c'est la tendresse vexée.
Le silence, c'est le bruit qui écoute.
Le sort, quand le bazar est apaisé.
La faiblesse, c'est la force qui doute.
Le doute, c'est l'espoir brisé.
L'espoir, c'est le mensonge cru.
Le mensonge, c'est pas la vérité.
La vérité, c'est pour les convaincus.
Mon cul, s'il enveloppe ma tête.
Ensemble, chante cette chanson.
Cette chanson, pour ne pas la finir bête.
Je la termine
pas.
Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes de retour à Puissance Maximale et on va maintenant avec l'univers de Guillaume Forand. Bonjour.
Eh oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui est sorti il y a à peu près un mois, mais que j'ai découvert en fait, vers la fin de la semaine passée, qui est le RPG, donc le jeu de rôle de Dragon Age. Et j'ai fait, ils ont sorti un jeu de rôle là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, parce qu'il faut dire que Dragon Age, c'est à l'origine un jeu évidemment vidéo très connu.
Qui a eu beaucoup de succès en 2009.
C'est ça, puis là, on parle de la version avec des livres.
Des livres sur table, comme Donjons Dragon, comme Vampire, un jeu de rôle classique sur la table avec des gens alentour de nous autres. Première chose qu'il faut mentionner, ce jeu-là, quand ils ont regardé pour faire le jeu, ils ont dit, bon, on prend-tu, premièrement, c'est la compagnie Green Ronin qui a fait ce jeu-là. C'est une compagnie qui a fait quelques jeux différents. Pas très populaire, mais assez populaire quand même. Ils sont bien établis dans l'univers. C'est pas dans les plus gros noms, mais ils sont dans le top 10.
Ils sont dans le top 100, oui, même.
Sont dans le top 10, top 5. Ouais. C'est pas les Wizards of the Coast, c'est pas White Wolf, mais ils sont là, ils font partie de la game. Et eux, quand ils ont été approchés par les gens de BioWare pour justement travailler sur l'RPG, ils se sont dit, faut faire de quoi de différent. Faut pas prendre un système qui existe déjà, faut faire quelque chose d'unique qui va bien représenter le jeu. Et quand ils ont envoyé, dans le fond, leur première maquette à BioWare, les gens de BioWare, ils ont fait « Wow, c'est génial, on approuve, c'est super bon, allez-y, continuez, vous êtes dans la bonne voie. » Donc ça, déjà là, on a deux compagnies différentes qui font chacune une version du jeu et que les deux apprécient le travail de l'autre. Donc ça, déjà là, en partant, ça fait un bon plus pour le jeu. Tu sais qu'ils font pas quelque chose à moitié, ils vont mettre du cœur parce qu'ils veulent. Bon, le jeu se vend 35$ en livre physique. Dur à trouver, par contre, même des sites de vente sur Internet, c'est difficile à trouver. Il y a possibilité d'en trouver, faut rechercher. Faut peut-être demander aussi à vos boutiques de commander spécifiquement pour vous à ce moment-là. C'est quelque chose qui peut être eu, par contre, comme livre. Il y a toujours la version PDF qui est moins chère, qui peut être commandée directement de leur site web. Moi, personnellement, je préfère un jeu physique. Il y en a qui aiment bien les PDF et quitte à imprimer qu'est-ce qu'ils veulent.
C'est ça.
Libre à vous à ce moment-là.
Ça va mieux pour lire quand on a la version papier.
Ben, juste pour lire les règles, tout ça, faire devant l'ordinateur, ça va bien. Moi, personnellement, quand je fais jouer, quand je joue, j'aime ça avoir le livre physique devant moi. Quand il faut que je regarde pour quelque chose, j'aime moins les PDF pour ça. Les deux, ils ont leur mérite, ils ont leurs désavantages.
Moi, je trouve que quand il y a un portable autour de la table, là, ça déconcentre les joueurs.
Ça déconcentre un peu des fois.
Un gimmick. Le danger, c'est de regarder seulement son portable et d'oublier les joueurs un peu.
Effectivement. Mais l'option est là pour les deux, les deux camps. Donc, je vous suggère une version ou l'autre. Le jeu, qu'est-ce qui est particulier aussi, c'est qu'ils n'ont pas sorti un livre avec « Voici tout ce qui est disponible ». Ils font ça en 4 volets. Parce que le jeu est séparé en 20 niveaux pour représenter un petit peu les niveaux qu'il y a dans le jeu sur l'ordinateur. Le premier volet, c'est niveau 1 à 5. Mais dans ce volet-là, il y a un livre pour le maître de jeu, il y a un livre pour les joueurs. L'autre volet qui va sortir plus tard, qui va être le volet numéro 2, c'est le niveau 6 à 10. Même principe, un livre pour le maître de jeu, un livre pour les joueurs. Il y a aussi des petites aventures qui viennent avec. Ça fait que le maître de jeu a déjà des aventures dedans. Il y a des cartes du monde, il donne des suppléments, là, des choses comme ça. Donc, c'est un petit plus qui te sort. C'est sûr, certain qu'on paye plus à long terme. Par contre, sur le coup, à chaque fois qu'on la jette, il y a quelque chose pour les deux côtés. Donc, c'est pas juste pour le maître de jeu. C'est quelque chose qui peut, comme livre, qui peut être partagé les frais. Exemple, si on va acheter un livre pour la gang, on peut facilement partager les frais à la gang parce qu'on sait que le maître de jeu va l'utiliser, mais en tant que joueur, je vais l'utiliser aussi, donc ça ne dérange pas d'investir.
Ah oui, puis il ne faut pas oublier que les jeux de rôle, là, c'est un des passe-temps les moins coûteux qu'il n'y a pas. Là. Parce que oui. Si vous investissez plusieurs fins de semaine et des mois, ça revient à quelques sous par jour.
Deux fins de semaine de 6 heures et puis on est rendu à 12 heures. Notre jeu qui coûte, disons, 36$, mais il est rendu 3$ de l'heure. Ça ne coûte pas cher. C'est quand même intéressant. Le jeu, il va y avoir d'autres accessoires, donc un écran du maître qui va sortir tout ça. Qu'est-ce qui est très particulier du jeu que moi, j'ai vraiment, quand j'ai lu ça dans les previews, que j'ai fait « Wow! » Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est que, premièrement, le jeu, pour attaquer, c'est pas pour faire des gestes, c'est pas un D10, c'est pas un 8D10, c'est pas un D20 comme dans beaucoup de systèmes, c'est 3D6. Okay. Parce qu'ils se sont dit, un D20, bon, c'est bien, mais ça varie beaucoup, tandis que 3D6, on s'en va toujours plus vers la moyenne.
Ça c'est comme le système de GURPS.
GURPS, un peu, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qui est particulier dans ce système-là, c'est qu'on roule 3D, mais il y a un dé qu'on met toujours d'une autre couleur, qui s'appelle le Dragon Dice. Donc, quand on réussit un jet, on regarde notre dé qui est différent. Disons qu'on a pris un dé qui était rouge. Et quand on réussit notre jet, ce dé-là détermine de quelle façon qu'on réussit. Donc, c'est un dé à 6 faces. Si on roule en 1 et qu'on voulait, exemple, sauter l'autre bord d'une falaise, bien, on réussit à sauter, mais on s'agrippe de peine et de misère sur le bord de la falaise. On réussit à grimper en haut. Il y a des roches qui tombent en bas. On avertit peut-être les gardes qui sont en bas aussi. Mais on a réussi à traverser. Si on roule un 6, mais là, à ce moment-là, on saute, on attrape une branche, ça fait une belle roulade, on atterrit, on se relève. Tout est beau, le linge est pas sale, tout va bien. Donc, c'est un système qui est plus facile pour le maître de jeu pour décrire un peu les situations, parce que selon le dé, ça détermine déjà à quoi va ressembler la situation. Donc, un jeu de rôle que je vous suggère d'essayer. Moi-même, je vais regarder voir pour aller chercher une copie. Ça a l'air intéressant. Faut juste que j'en trouve une puis que je prenne le temps de le faire. Mais je suggère aux gens qui veulent essayer quelque chose de différent un peu, un système peut-être un peu plus léger que d'autres systèmes, mais quelque chose d'innovateur et différent.
Puis entre autres, je pense que c'est très, très adapté pour les gens qui commencent dans le hobby, parce qu'il est très facile d'approche, très facile d'accès.
Mais pas nécessairement juste pour ces gens-là. Quelqu'un non, plus d'expérience. C'est un jeu qui va être plus simple au niveau des règles, quoique pas nécessairement mauvais, mais car plus simple ne veut pas dire mauvais non plus. Non. Mais quelque chose qui est plus simple, donc plus simple à attirer des nouveaux gens dans le hobby, qu'est-ce qui est très important.
Puis c'est une tendance lourde là, qu'on sent dans le hobby là, de simplifier. On veut plus arriver avec des tomes là, énormes, là, puis des tables à n'en plus tenir. Les gens, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps, on veut simplifier.
Justement, c'est tout le temps qu'on a. Oui. Je te remercie Guillaume Farrand, donc il nous parlait de Dragon Age, le jeu de rôle.
Oui.
Donc sinon, on va aller écouter une pièce de la sélection de Musax, notre ami français Yannick Capmarty. Allez voir ça, il y a musax.info. Et la pièce, c'est toujours dans la série Zone of the Enders. Donc ça prend place au 22e siècle, époque où les Terriens ont colonisé plusieurs planètes. La pièce s'appelle Compression Space.
Bonjour tout le monde.
Salut Christian.
Salut, donc Christian Lacroix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'habitude, je parle de jeux de rôle, des fois de jeux de plateau. Là, je vais vous parler de jeux de plateau adaptés sur le iPod, entre autres, OK, pour commencer. Fait que si on a le temps, je vais parler du jeu en français, en général. Mais là, le temps file. Donc, sur l'iPod, évidemment, ça fait quelques mois que je l'ai. Là, je commence à vraiment plus jouer avec. Et ce que j'ai remarqué, il y a une tendance lourde. Entre autres, le docteur Rainer Knizia, pour ceux qui connaissent les jeux de plateau. Il est hyper prolifique. C'est fou, là. Ça devient un peu une blague dans le hobby, parce que il y a un produit comme... On dirait qu'il y a des nègres qui travaillent pour lui, comme on dit, là, comme en littérature, là. Mais ça n'a pas de sens. Il y a un produit comme un par mois. Là, tu sais ça. Bref, ils sont pas tous bons en passant, mais en tout cas, je suis tombé sur Ingenious, un de ces jeux, et sur, on dirait que c'est fait pour le iPod. Vraiment, là, c'est génial, on peut jouer contre soi-même, faire le plus de points possible. Je suis tombé en amour avec ce jeu-là. C'est un genre de jeu de puzzle, donc une réussite totale. Je pense qu'il est encore, en tout cas, quasiment mieux que la version en boîte. Là.
Ça, d'ailleurs, c'est pas sa spécialité, justement, les jeux de puzzle?
Oui, c'est un docteur en mathématiques. Hein, cet homme-là. Extrêmement brillant. Mais ce qu'on peut lui reprocher souvent, c'est que ses jeux manquent de thème. Il colle un thème là-dessus, mais au fond, c'est très mathématique. Là. Quand t'es bon en mathématiques, tu te performes dans ce jeu-là parce que c'est vraiment d'aligner.
Il est sorti des formules, puis après, bon, ben là, c'est quoi le nom du jeu? Oh, on va prendre celle-là.
Oui, exactement. Oh, okay. Le thème est collé là-dessus. Bon, ça, c'est un peu une critique qu'on pourrait faire. Mais Ingenious, justement, c'est un jeu purement abstrait avec des formes qu'on essaie de. Et donc, c'est génial. La version iPod, moi, ce que je critique, là, c'est l'adaptation sur la plateforme iPod ou iPhone. Là. C'est parfait. À part ça, il y a Catane, les colons de Catane. Qui,
j'ai vu passer celle-là.
Ouais, c'est le classique. Moi,
les colons de Catane, je pense qu'elle a surclassé les Monopoly dans le top des ventes aux États-Unis.
Oui,
là, donc,
oui, c'est un phénomène, il faut le dire. Et c'est ce qui a lancé le renouveau des jeux de plateau là, il y a plusieurs années. Maintenant, il y a des extensions à n'en plus finir. Moi, personnellement, j'ai une relation amoureuse avec ce jeu-là parce que je roule toujours pour les autres. Donc, moi, je ne reçois jamais les maudites ressources. Mais en tout cas, ça, c'est qu'est-ce que tu veux? Il y a des jeux comme ça, hein, qu'on a la poisse, comme disent les Français. Donc, ça, et c'est pareil dans la version iPod, d'ailleurs. Je ne roule jamais pour moi. Ça, j'ai beaucoup de frustration. Mais j'ai profité d'une vente pour ces deux jeux-là. Et en passant, si vous avez un iPod, là, attendez toujours les ventes parce que c'est hallucinant. Là. Il y a souvent, comme j'ai acheté un jeu qui était à 7$ à 99 cents, ben 1$. C'est une méchante
économie. Souvent, ils font des spéciaux régulièrement. Puis quand ils voient, ça pogne beaucoup. Mais ils font, ben, on va les tirer plus loin. On va vouloir. Donc, ça vaut la peine de regarder régulièrement quel jeu se vend pour dans les moins chers ou même dans les catégories qu'on peut voir sur l'iPod. C'est quoi les jeux qui se vendent le plus parce qu'on fait des bonnes découvertes avec ça.
Oui, tout à fait.
C'est la joie des jeux digitales. Hein?
Ouais, c'est ça. Alors, attendre les spéciaux, ça, c'est mon conseil vraiment important. Donc, les colons de Catane, très belle adaptation. Par contre, c'est que le jeu de base, alors que maintenant, presque tout le monde joue avec au moins l'extension maritime. Là. Bon, ça, c'est que le jeu de base, mais quand même, c'est assez fidèle. On peut zoomer, on s'habitue. Là. L'interface est quand même bien faite.
Et là, on joue contre l'ordinateur ou on peut jouer...
On peut jouer avec des autres humains puis se passer le iPod. Ou, on peut aussi jouer contre l'ordinateur qui ont différentes personnalités, tout ça. C'est quand même bien fait.
On peut-tu jouer sur le net en réseau?
À ma connaissance, non. C'est peut-être dans une mise à jour, ça va être à suivre. Peut-être pour terminer là-dessus, là, parce que je vais me garder un peu de temps, je vais parler de deux applications intéressantes aussi, OK? Donc, Board Game Geeks, donc ils ont une application, évidemment, et c'est intéressant parce qu'on peut mettre à jour sa base de données. Pour ceux qui connaissent un peu Board Game Geeks, là, tous les abonnés, on a une base de données, on peut mettre nos jeux favoris, nos performances, toutes nos sessions de jeu, on peut les enregistrer là-dedans. Ben, avec ça, on peut le faire. Donc, c'est pratique parce que si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez au fur et à mesure d'une partie enregistrer les résultats, par exemple, avec qui vous avez joué, tout ça. Vous avez aussi Board Game Companion. Ça, c'est une application très intéressante. La version de base est gratuite, mais vous avez seulement accès au jeu Alhambra. Et vous avez d'autres jeux, mais il faut payer. Souvent, c'est environ 1$ par jeu. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez enregistrer les joueurs et ça vous fait un résumé des règles. C'est vraiment bien fait quand même. Comment mettre en place le jeu, tout ça. Puis ensuite, c'est à qui à jouer. Ça t'aide à gérer ton jeu. Donc, c'est drôle à dire, mais c'est quand même... J'étais curieux, je l'ai essayé. Puis avec Alhambra, puis ça fonctionne quand même surprenamment bien. Là. Tu rentres le nom des joueurs, puis ça te décrit, bon là, OK, faut comment... Oublie pas ça. Donc, des fois, il y a des règles qu'on oublie régulièrement. Des fois, les règles obscures.
Les jeux un petit peu plus complexes, là.
C'est ça. Alors ça t'y rappelle. C'est une espèce d'aide, là. Et en plus, ça enregistre les scores, etc. Donc, tu peux faire le suivi de tes sessions. Donc, c'est assez intéressant. Ça fait le tour, donc, pour les jeux de plateau, là. Évidemment, il y en a d'autres. Et ça s'en vient, c'est une vague de fond, là. Donc, je vais en reparler probablement au fur et à mesure quand j'en aurai d'autres à vous présenter. Et il me reste quelques minutes à peine, mais je voulais juste lancer un débat, encore une fois. Un peu comme le docteur... Poirier tantôt, et Raymond qui disait, bon, moi ma question c'est jouer en français. Surtout, bon, je prends un exemple, une étude de cas, d'accord? La semaine passée, on a regardé pour avoir Shadowrun, la 4e édition, OK, qui est sortie il y a quelques mois quand même. Et donc, on s'en va à une boutique tout près d'ici à Québec. On arrive, il y avait les deux versions. Il y avait la version 20e anniversaire en plus, qui est comme une édition un peu de luxe. Alors, on regarde ça, parfait. Ah, ben, on va le prendre en français, si possible. Et il y a 83$ en plein. Et on va regarder en anglais, 45$, tu sais. Alors là, calcule les taxes, ça, c'est le double. Donc là, on a fait, voilà, tu sais, c'est presque la même chose. Par contre, au niveau de l'art, là, le graphisme, ils l'ont amélioré, les Français ont dit. Et c'est une des raisons pourquoi ils ont décidé, et les Allemands aussi apparemment, ont décidé que c'était pas beau, donc on refait les... Mais il y a un coup lié à ça, là. Moi, je veux bien encourager les versions françaises. Je veux jouer en français, on sait bien, autant que possible. Mais au double du prix, je ne sais pas. Là, et une autre chose, moi j'ai appris mon anglais grâce à Donjon Dragon,
ben oui.
Mais la version anglaise à l'époque, parce qu'on était pauvres, on était ados. Alors on se cotisait ensemble, on achetait des versions anglaises, c'est moins cher. Mais on apprenait, je suis comme ça, I am bilingual. non, mais je parle assez bien anglais.
Peut-être vous autres, Francis, Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, personnellement, moi, je trouve que jouer en français, jouer en anglais, dans mon cas personnel, c'est, étant donné que je suis bilingue, ça n'importe pas. Puis je me dis, bon, ben, les sous qu'on économise en le jouant en anglais, c'est pas plus grave, ça va juste parfaire ma langue anglaise. Ça me dérange pas trop. Ouais. C'est sûr que j'ai des amis, exemple, qui sont plus joueurs francophones. Donc, si on arrive avec un jeu où il faut expliquer des cartes qui sont en anglais, là, ouais. Ça, on fourrait bien vite.
Puis juste une chose, c'est qu'on est dans un cercle vicieux actuellement. Moi, je fais partie du problème. Dans le sens que moins on achète en français, moins il va y avoir des éditions en français.
Ben oui.
Donc, et plus ils sont chers, parce que moins il y a de ventes. Donc, c'est un peu un problème épineux.
Il faudrait qu'ils mettent une descente.
Effectivement. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est le même point de vue que pour les films. Ou un livre, c'est toujours dans sa langue d'origine. Le jeu de Rêve de Dragon, qui est un jeu français, moi, si j'achète le jeu, je l'achète en français, pas en anglais. Même chose pour mes jeux, pour mes films, c'est toujours le même principe que j'ai.
Oui, c'est une bonne idée, je pense.
Ben, c'est tout le temps qu'on a. Christian, voilà. Je te remercie beaucoup.
Merci.
Donc,
à vous.
Tu parlais d'Ingenious, des jeux sur iPod, les colons de Catan, Board Gate, puis deux extensions pour la Board Game Geek. Francis, tu avais une petite news à dire?
Oui, effectivement, c'est très rapide. Écoutez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un Nintendo qui avait été vendu à 13 405 $ US, qui était absolument incroyable. À cause principalement d'un seul jeu qui était Stadium Event. Eh bien, imaginez-vous donc qu'il y a des gens qui ont décidé de retrouver un jeu complet qui l'ont vendu 15 000 $. Incroyable.
Ben, je te remercie, Francis. C'est tout le temps qu'on a. Donc, voilà, j'ai 5 secondes pour vous dire. Vendredi prochain, c'est le Warp Zone 2 au Studio P. Donc, venez jouer avec nous. Ça va être des jeux vidéo rétro. Donc, il va y avoir de la liqueur, des ramen. Ça va être extraordinaire. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao.
My friends are coming over to my...